إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله وأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فما زلنا نقرأ شرح الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، مع شرح الشيخ عبد الرزاق ابن أبي المحسن البدر حفظهم الله جل وعلا. وبحمد الله عز وجل، قد ذكرنا في درسنا الماضي حوادث من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، منها سفره مع ميسرة غلام خديجة في تجارتها إلى الشام. Donc on poursuit بإذن الله عز وجل l'explication de du poème Al-Urjouza Al-Mi'iyya du Cheikh Ibn Abi al-Izz al-Hanafi رحمه الله تعالى، avec l'explication du Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr حفظه الله. Et on a mentionné la semaine dernière plusieurs événements de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux, le voyage qu'il a fait avec Maysara, qui était donc le servant de Khadija radiallahu anha, dans le but de commercer avec les biens de Khadija, yani dans la région du Shem. Les territoires du Shem. ثم ذكرنا زواجه من خديجة. Puis on a mentionné également son mariage avec خديجة رضي الله عنها. نعم. إذن وذكرنا أيضا أن لخديجة رضي الله عنها أشياء قد خصت بها عن سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. Il en a mentionné donc plusieurs points qui font que Khadija est une des épouses les plus particulières du prophète صلى الله عليه وسلم. Parmi ces choses qui la distinguent des autres épouses le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on avait dit que c'était donc la première femme qu'il a épousée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième chose, le fait qu'il n'ait épousé aucune femme en étant marié avec elle. Également le fait que ce soit la mère de tous ses enfants, sauf un. Également le fait que ce soit la mère de son premier enfant, qui est Al-Qasim. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été appelé Abu Al-Qasim, Et également le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas épousé une femme parmi les descendants de Qusay ibn Kilab, si ce n'est Khadija, mais également aussi Ummu Habiba. Et également le fait qu'il a annoncé la bonne nouvelle à Khadija, c'est-à-dire le fait que Allah tabaraka wa ta'ala lui réserve et lui prépare une maison au paradis qui est faite de perles, qui est faite de perles. Naam, et ceci donc, où toutes ces choses-là font partie des spécificités de Khadija par rapport aux épouses de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. فننتقل إلى قول الناظم رحمه الله تعالى فقال الناظم وصار نحو شام أشرف الورى في عام 25 ذكورا لأمنا خديجة متاجرا وعاد فيه ربيحا مستبشرا فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها وولده منها خلا إبراهيم فالأول القاسم حاز التكريم وزينب رقية وفاطمة وأم كرثم لهن خاتمة ثم قال الناظم رحمه الله والطاهر طيب عبد الله وقيل كل اسم لفرد زاهي أي قال الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله أن الطاهر وطيب لقبان لعبد الله الطاهر والطيب لقبان لعبد الله وليس ابنين آخرين للنبي صلى الله عليه وسلم وقيل كل اسم لفرد وهذا قول آخر حكاه على وجه التضعيف على وجه التضعيف وهو أن هذه الأسماء لثلاثة أفراد وعلى هذا القول يكون أبناؤه الذكور منها أربعة زاهي أي جميل مشرق طيب donc on poursuit بإذن الله عز وجل il dit l'auteur Ibn Abi al-Izz رحمه الله تعالى dans le sens rapproché de son poème Naam il dit et At-Tahir At-Tayyib Abdullah donc At-Tahir et At-Tayyib ce sont deux surnoms du fils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Abdullah. Donc le prophète, il avait un fils qui s'appelait Abdullah. Et Abdullah, il avait deux surnoms. Ces deux surnoms étaient At-Tahiru et At-Tayyibu. Donc At-Tahiru et At-Tayyibu, ce n'est pas deux autres garçons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Mais ce sont deux surnoms de son fils Abdullah. Certains disent, malgré ça, que ce sont le prénom, ce sont les prénoms de deux autres enfants de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent que Abdullah c'est un enfant, At-Tahiru c'est un enfant, et At-Tayyibu c'est un troisième enfant. Vous voyez ? Donc ça c'est un autre avis mentionné par l'auteur également lorsqu'il dit وَقِيلَ كُلُّ اسْمٍ لِفَرْدٍ زَاهِ Il dit, et on dit, que pour chaque nom, eh bien, que chaque nom appartient à un individu, c'est-à-dire à un enfant spécifique. C'est-à-dire, At-Tahir c'est un enfant et At-Tayyib c'est un autre enfant. Tayyib, mais l'auteur ne l'a mentionné que dans le but de dire que c'est une parole qui est faible. Tayyib, c'est une parole qui est faible. Et on voit très bien que l'avis de l'auteur, qui est l'avis correct, est que At-Tahir et At-Tayyib c'est Abdullah. Parce qu'il a dit والطاهر طيب عبد الله الطاهر الطيب عبد الله c'est Abdullah d'accord et donc ils disent que donc d'autres gens de science disent que ce sont trois enfants. Voyez? Na'am. Et donc, si on prend le deuxième avis, eh bien, cela reviendrait à dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a eu combien de garçons en tout? Quatre. Abdullah, Tahir, Tayyib et Ibrahim. Hein? Ça reviendrait à dire qu'il a eu على هذا القول يكون أبناؤه الذكور منها أربعة منها أربعة c'est-à-dire عفوا de خديجة ça ferait 4 et si on compte tous les enfants qu'il a eu ça ferait 5 donc de خديجة on a dit القاسم عبد الله et si on rajoute الطاهر الطيب ça fait 4 plus إبراهيم l'enfant qu'il a eu avec Maria d'accord. Mais on a dit que cet avis-là, il est faible. L'avis fort, l'avis correct, c'est qu'il a eu combien de garçons en tout? Trois. Deux avec Khadija et un avec Maria. Les deux avec Khadija, c'est Al-Qasim et Abdullah et Ibrahim avec Maria. Jayed? نعم. ثم قال زاهي أي جميل مشرق. puis il dit زاهي en parlant de Abdullah. En parlant de Abdullah, il dit زاهي. Hein? زاهي ça veut dire beau. Beau et مشرق resplendissant. Resplendissant de beauté. نعم. ثم قال والكل في حياته ذاق الحمام وبعده فاطمة بنصف عام. والكل يعني جميع أولاده في حياته صلى الله عليه وسلم ذاق الحمام أي الموت الموت فمنهم من ذاق الموت مبكرا قبل المبعث ومنهم من تأخر إلى ما بعد المبعث المبعث منهم ذاق الموت مبكرا قبل المبعث ومنهم من تأخر إلى ما بعد المبعث بل إلى ما بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلا فاطمة رضي الله عنها فإن وفاتها كانت بعده ولذا قال وبعده فاطمة بنصف عام أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر بيجي dans le sens de son poème, il dit « Wal kullu fi hayati dhaqul himam » et tous, c'est-à-dire tous ses enfants, durant sa vie, ont goûté à la mort. Donc « dhaqu al-himam »« al-himam » ici, c'est « al-maut » c'est la mort. Voyez. « Wa ba'dahu Fatima » et après lui, « Fatima » C'est-à-dire que le seul enfant qui est décédé après lui, c'est qui? C'est Fatima, sa fille Fatima, c'est-à-dire 6 mois après. 6 mois après la mort de son père, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, parmi ses enfants, certains ont goûté à la mort tôt, c'est-à-dire avant la prophétie. Certains sont morts avant qu'ils deviennent ou avant qu'ils ne soient devenus prophètes. Et certains sont morts après la prophétie. Donc certains sont morts avant la prophétie, d'autres sont morts après la prophétie. D'autres sont même morts après l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont morts assez tardivement après la prophétie. Donc ça veut dire qu'ils seraient morts au moins 13 années après la prophétie. 13 années après la prophétie. Jayid. Sauf Fatima. Excepté Fatima, radiallahu anha, qui elle est morte après son père, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il dit l'auteur, wa ba'dahu Fatima tum bi nisfi 'am. Et après lui, Fatima bi nisfi 'am. C'est-à-dire, 6 mois après. 6 mois après la mort du prophète, alayhi salat wa salam. ففي صحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. وفيهما أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أصر إليها حديثا فبكت، فقلت لها: لما تبكين؟ ثم أصر إليها حديثا فضحكت، فقلت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فسألتها عما قال، فقالت: ما كنت لأفشي سر الرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فسألتها فقالت: أصر إلي إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي. فبكيت، فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك. Dans les deux sahih, dans les deux authentiques, selon Aïcha, radiallahu anha, qui a dit que Fatima, donc Aïcha, elle a dit, Fatima a vécu après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, 6 mois. Donc elle a vécu après lui 6 mois, puis elle est morte. Et également, dans les deux authentiques, on trouve un autre hadith d'Aïcha, radiallahu anha, qui a dit, Fatima, donc la fille du prophète, Fatima est arrivée en marchant comme marche son père. Elle avait la même démarche que son père, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète, quand il a vu sa fille, il a dit: bienvenue, bienvenue à toi, ma fille. Marhaban bibnati. Puis il a fait s'asseoir, il a fait asseoir sa fille à sa droite ou à sa gauche. Ensuite, asarra ilayha, il lui a confié un secret. Il a parlé à sa fille, il lui a confié quelque chose sans que les autres autour n'entendent. Donc, c'est-à-dire que Aïcha n'entendait pas ce que le prophète disait à sa fille Fatima. Et Fatima, elle a pleuré. Alors Aïcha, elle a dit: pourquoi tu as pleuré? Puis elle dit à Aïcha que le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a fait une autre confidence. Et elle a souri. Donc la première fois, elle a pleuré. Et la seconde fois, elle a souri. Et là, Aïcha, elle a dit: je n'ai jamais vu comme aujourd'hui une joie le plus proche, ou une joie plus proche de la tristesse que celle-là. Je n'ai jamais vu comme aujourd'hui une joie aussi proche de la tristesse. Alors elle dit à Aïcha: je l'ai demandé, qu'est-ce qu'il t'a dit? Et là, Fatima, elle a refusé. Elle a dit: je n'ai pas à te divulguer le secret du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que le prophète décède. Et après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, elle a demandé à Fatima. Elle lui a redemandé, elle a posé la question: qu'est-ce qu'il t'a dit? Et là, Fatima, elle a répondu: il m'a dit, et le prophète, il lui a dit, Jibril a l'habitude de me faire réciter le Coran en entier chaque année, tous les ans. Une fois par an, Jibril, alayhi salam, faisait réciter le Coran au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit le prophète: mais cette année-là, il me l'a fait réciter 2 fois. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit donc, j'ai su, j'ai deviné que mon heure était arrivée. Deviner. Donc il a compris, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il allait mourir cette année-là. L'année où Jibril alayhi salam lui a fait réciter deux fois le Coran. Et quand elle a entendu ça, elle a pleuré, Fatima. Mais après il lui a dit, mais toi, en parlant à sa fille Fatima, tu es la première personne de ma famille qui va me rejoindre. Fatima, il lui a dit à Fatima, mais toi, tu es la première personne de ma famille à me rejoindre. C'est-à-dire qu'il lui a dit qu'elle allait bientôt mourir, elle aussi, après lui, avant même les autres membres de sa famille. Et là, elle a pleuré. Fatima, elle a pleuré. Puis il lui a dit, ne serais-tu pas satisfait d'être la maîtresse des gens du paradis ou la maîtresse des femmes des croyants? Donc il a dit à sa fille Fatima qu'elle sera au paradis la maîtresse des femmes des croyants. Et c'est là qu'elle a souri. Fatima radiallahu anha. Idan, جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من خديجة إلا إبراهيم فكان من ماريا مولاته. Et donc tous les enfants du Nabi صلى الله عليه وسلم sont de Khadija, excepté comme on a dit Ibrahim, qui est l'enfant de Maria, l'esclave du Nabi صلى الله عليه وسلم. جيد. ثم قال وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما اندثر. ففي هذا البيت ذكر الناظم شهود النبي صلى الله عليه وسلم بنيان المشركين لبيت الله الحرام، وكانت هذه الحادثة لما بلغ سن النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة. قال ابن إسحاق فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة، ذلك أن بناء البيت قد اختل وتصدع بسبب سيل عارم أوهن أساسا وصدع جدرانا، فاحتاج إلى أن يعاد بناؤه من جديد،
وكان صلى الله عليه وسلم حضر ذلك وشهد، بل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان شارك في نقل الحجارة كما في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك دقيقة من الحجارة، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق، فقال: إزاري إزاري، فشد عليه إزاره صلوات الله وسلامه عليه. Donc ici on va mentionner un nouvel événement. Il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, et après 35 ans. C'est-à-dire, dans ce vers-là, l'auteur, rahimahullah, il va parler du témoignage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de la reconstruction de la maison d'Allah, al-Haram, de la Kaaba. D'accord ? De la reconstruction entreprise par les mouchriquines, les polythéistes, de la maison d'Allah, tabarak wa ta'ala. Donc cet événement-là s'est déroulé lorsque un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a eu 35 ans. D'accord ? Donc il avait quel âge ? 35 ans. Il dit Ibn Ishaq, radiallahu anhu, wa rahimah. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a atteint 35 ans, la tribu de Quraysh s'est rassemblée afin de reconstruire et rebâtir la Kaaba. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, les fondations et la construction de la Kaaba étaient endommagées et fissurées à cause des pluies torrentielles. Qui avait donc causé la fragilité des fondations de la Kaaba. Donc ils ont été obligés de la reconstruire. Car ça a démoli les murs de la Kaaba et fragilisé les fondations de la Kaaba. Donc ils ont vu qu'il était obligatoire de remonter et de reconstruire la Kaaba de nouveau. Et donc le prophète, il avait quel âge ? À ce moment-là, 35 ans. Et donc il a assisté. Donc il n'était pas encore un prophète. Mais il a assisté, il a témoigné, il a été témoin de cette reconstruction. Plus que ça, il a même participé à la reconstruction. C'est-à-dire qu'il a participé à notamment transporter les pierres servant à remonter, à reconstruire, à rebâtir la Kaaba, comme cela a été rapporté dans les deux authentiques chez Al-Bukhari et Muslim. Selon Jabir ibn Abdullah, qui a dit, lorsque la Kaaba a été rebâtie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, lui et Abbas, radiallahu anhu. Et ils ont donc transporté les pierres pour rebâtir la Kaaba. Il dit Abbas, à un moment, il a dit Abbas au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, mets ton izar, yani, sur ta nuque, sur ton cou, c'est-à-dire sur ta nuque, afin de te protéger des pierres. Parce que qu'est-ce qu'il faisait, hein? Donc certains transportaient les pierres à plusieurs, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il les transportait les pierres tout seul, et il les mettait sur son cou, sur sa nuque, et les transporter comme ça. Taïeb. Et donc, Al-Abbas, il a conseillé de mettre son izar au-dessus du cou pour justement être protégé des pierres. Et il dit que le prophète, à un moment, il est tombé par terre et il a levé les yeux au ciel. Puis il s'est relevé et là, il a dit Izari, Izari, apportez-moi mon izar, c'est-à-dire afin que je le mette sur ma nuque pour me protéger des pierres. Et là, on lui a donc fixé son izar sur le cou Alhamdulillah. Jayed. Donc il a participé à la reconstruction de Al-Kaaba. Naam. ثم قال الناظم وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم فكان قد حصل اختلاف شديد بين القبائل من قريش لما وصلوا إلى موضع الحجر الأسود من منهم يضع الحجر الأسود مكانا وهم يعرفون حرمة هذا الحجر ومكانته وفضله وكل قبيلة تريد أن تحظى بهذا الشرف ولهذا اختصموا واختلفوا اختلافا شديدا في ذلك فحكموه ورضوا بحكمه وازداد عليه الصلاة والسلام بذلك قدرا فوق قدره ومكانة فوق مكانته في جلوتا رحمه الله تعالى وحكموه ورضوا بما حكم يعني لا 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 قريش ont pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc à ce moment-là, il n'était pas encore un prophète, et ils l'ont choisi quand même pour être juge, pour être le juge dans l'affaire concernant la pierre noire. Voyez, donc, les tribus de Quraysh ont eu une grande divergence à propos de la pierre noire. C'est-à-dire lorsqu'ils ont reconstruit la Kaaba et qu'ils sont arrivés au stade de reposer la pierre noire et de refixer la pierre noire sur la Kaaba, ils ont divergé et se sont disputés. Pourquoi se sont-ils disputés? Pour savoir qui de ces différentes tribus allait avoir l'honneur de poser la pierre noire sur la Kaaba. Vous voyez? Donc chaque clan, chaque tribu voulait avoir cet honneur-là. Taïeb. Et il connaissait la valeur et la sacralité de la pierre noire, son degré, son mérite. Et chaque tribu donc voulait obtenir et profiter de cet honneur. C'est pour cette raison que ils se sont disputés, ils ont divergé, une grande divergence. Et ils ont eu l'idée de prendre pour juge le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui n'était pas encore, encore une fois, je le répète, un prophète. Mais ils savaient que le prophète était l'amin, le loyal, l'honnête. Et ils ont accepté son jugement. Et le prophète, à ce moment-là, alayhi salatu wa sallam, a encore eu plus de valeur à leurs yeux, à ce moment-là. Et plus d'importance et d'honneur. قال ابن إسحاق ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها كل قبيلة تجمع واحدة ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن أي حجر الأسود فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى حتى تحاوروا وتحالفوا وأعدوا للقتال فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة فسموا لعقة الدم فمكثت قريش على ذلك 4 ليال أو 5 ثم إنهم اجتمعوا في المسجد وتشاوروا وتناصفوا. Il dit Ibn Ishaq, rahimahullah ta'ala, ensuite, les tribus de Quraysh ont commencé donc à réunir les pierres pour rebâtir la Kaaba. Donc chaque tribu réunissait les pierres de son côté, puis ils ont construit la Kaaba. Jusqu'à, donc, comme on l'a dit, ils sont arrivés à l'étape de l'angle de la pierre noire, où il fallait donc remettre la pierre noire à sa place. Et là, ils ont commencé à se quereller. Chaque tribu voulait donc avoir l'honneur de remettre la pierre noire à sa place. Donc, ils ont commencé à discuter, à débattre et à s'allier les uns avec les autres, contre d'autres. Ils ont même préparé, ont commencé à préparer le combat. Ils ont même commencé à préparer le combat. Donc il s'apprêtait même à se battre pour savoir qui est-ce qui allait mettre la pierre noire. Enfin, même un des clans, qui est le clan des Abdeddar, ils ont amené un récipient rempli de sang. Rempli de sang. Ensuite, ils ont pris un engagement, eux ainsi que le clan de Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay, de combattre jusqu'à la mort. Ils ont rentré leurs mains dans ce récipient de sang, taillé, et c'est pour ça qu'ils ont été appelés l'Aqat al-Dam. L'Aqat al-Dam. Et donc, Quraysh est resté comme ça, dans cette situation-là, pendant 4 ou 5 nuits. Pendant 4 ou 5 nuits, donc, ils étaient en totale divergence. Et ça allait exploser, comme on dit, en combat. Ensuite, ils se sont réunis dans la mosquée, au bout de ces 4 ou 5 nuits, et ils ont encore discuté, se sont concertés les uns les autres, et ont trouvé un terrain d'entente. Et ils ont trouvé un terrain d'entente, inshallah ta'ala. Ils ont été, yani, juste les uns vers les autres. Faza'ama ba'd ahli riwaya, inna aba Umayyah ibn al-Mughira ibn Abdullah ibn Umar ibn Makhzum, wa kana 'ama idhin asanna Quraysh kulliha. Qala ya ma'shara Quraysh, ij'alu baynakum fima takhtalifuna fi, awwala man yadkhulu min bab hadha al-masjid yaqdi baynakum fi. Fafa'alu, fa kana awwala dakhilin 'alayhim Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Falamma ra'awhu qalu hadha al-amin radina hadha Muhammad. Falamma intaha ilayhim wa akhbaruhu al-khabar, قال صلى الله عليه وسلم هلم إلي ثوبا فأتي به فأخذ الركن فوضعه فيه بيده ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم رفعوه جميعا حتى إذا بلغوا به جميعا موضعه وضعه هو بيده ثم بني عليه. Des hadiths, des riwayats, on dit que Abu Umayya, donc une personne qui s'appelle Abu Umayya ibn al-Mughira ibn Abdullah ibn Umar ibn Makhzoum, qui était cette année-là la personne du clan de Quraysh la plus âgée. C'était la plus âgée de la tribu de Quraysh. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il a dit « Ô Quraysh, faites que la première personne qui va entrer par la porte de la mosquée soit celle qui va juger entre vous dans votre divergence. Vu que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, il a dit, faites que la première personne qui va entrer par la porte de la mosquée, eh bien c'est elle qui va avoir le dernier mot, c'est elle qui va choisir et qui va juger entre vous. Ils ont dit d'accord. Et qui est-ce qui est entré? C'est le prophète Mohammed. Il est entré. Et lorsqu'ils l'ont vu, ils étaient contents. Parce que ce n'était pas n'importe qui. Ils savaient que le prophète était l'amin, l'honnête homme, le loyal, celui qui ne ment pas, qui ne triche pas, qui ne trompe pas. Et donc ils étaient contents. Alhamdulillah, ce n'est pas n'importe qui. Hada Mohammed, c'est Mohammed. Taïeb. Et donc, lorsqu'ils ont expliqué à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il devait faire, et là le prophète, regardez la sagesse qu'il avait déjà, subhanallah, il a dit amenez-moi un vêtement. Amenez-moi un vêtement. On lui a amené un vêtement. Puis il a pris la pierre noire et il a posé sur le vêtement avec sa main. Et il a dit chaque tribu prend un côté du vêtement. Que chaque tribu vienne, chaque responsable des tribus vienne, ou chaque tribu vienne, et prend un côté du vêtement. C'est-à-dire, tout le monde, vous allez la transporter. Tout le monde. Il n'y aura pas de jaloux. Prenez chacun un côté du vêtement, et vous allez tous soulever la pierre noire. Vous allez tous la mener à l'angle de la Kaaba. Jusqu'à ce qu'ils soient arrivés donc à l'endroit de la Kaaba. Et là, qui est-ce qui a pris la pierre noire? C'est le prophète lui-même. Le prophète, il a prise et c'est lui qui l'a posée avec ses nobles mains. Et c'est ainsi qu'ils ont donc rebâti donc la Kaaba autour de la pierre noire. Wahakada. وهذا الذي ذكره ابن إسحاق يشهد له ما رواه الإمام أحمد عن مجاهد عن مولاه أنه كان في من يبني الكعبة في الجاهلية قال ولي حجر أنا نحطه بيدي أعبده من دون الله تبارك وتعالى فأجيء باللبن الخافري الذي أنفسه على نفسي فأصبه علي فيجيء الكلب فيلحسه ثم يشخر فيبول فبنينا حتى بلغنا موضع الحجر وما يرى الحجر أحد فإذا هو وسط حجارتنا مثل رأس الرجل يكاد يتراءى منه وجه الرجل فقال بطن من قريش نحن نضعه وقال آخرون نحن نضعه فقالوا اجعلوا بينكم حكما قالوا أول رجل يطلع من الفج فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أتاكم الأمين فقالوا له فوضعه في ثوب ثم دعا بطونهم فأخذوا بنواحيه معه فوضعه هو صلى الله عليه وسلم. Donc, ce qu'a mentionné ici Ibn Ishaq, radiallahu anhu, wa rahima, est aussi affirmé et confirmé par ce qu'a rapporté l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, selon Mujahid, selon son esclave, qui a dit que, donc, son esclave qui faisait partie des gens qui ont reconstruit la Kaaba. Il dit, j'avais une pierre. Il commence son récit par, j'avais une pierre que j'ai moi-même taillée et que j'adorais en dehors d'Allah tabarak wa ta'ala. On ne parle pas de la pierre noire. Hein. Là, on parle, la personne dit, j'avais une pierre. Donc à l'époque, c'est des mouchriquines. Hein. Il dit, j'avais une pierre que j'avais moi-même taillée de mes propres mains et que j'adorais en dehors d'Allah tabarak. Et je prenais du lait, al-khafir, du lait épais, qui était donc pour moi un lait très précieux. Et je le déversais sur cette pierre. Puis un chien venait et il léchait le lait. Puis il levait la patte et il urinait sur la pierre qu'il adorait en dehors d'Allah Azzawajal. Alors, Allah, regardez, subhanallah, ces gens-là adoraient des statues que même les animaux urinaient dessus. Subhanallah. Na'udhu billah. Puis il dit, et donc on a construit la Kaaba jusqu'à ce que nous sommes arrivés à l'étape de la pierre noire. Et aucun d'entre nous ne voyait où elle était jusqu'à ce qu'on l'a vue au milieu de toutes les pierres. Taïeb. Puis il y a une phrase en arabe, il dit « Mithl al-ra'as al-raduli yakadu yatara'a minhu wajhu al-rajul ». Donc cette phrase-là, Inch'Allah Ta'ala, on la traduira la semaine prochaine, bi'idhnillah azza wa jal, lorsque, une fois que j'aurai posé la question, Inch'Allah Ta'ala, aux gens de science, sur le sens exact de cette phrase. Puis il dit « Faqala batnun min Quraysh ». Puis une des tribus de Quraysh a dit « C'est nous qui allons la mettre, la pierre noire ». D'autres ont dit, non, c'est nous qui allons la mettre. Et ils ont dit, d'autres ont dit, mettez entre vous un juge. Prenez entre vous un juge. Ça y est, donc dans la version qu'on a vue tout à l'heure, c'était Abu Umayyah al-Mughira, donc le plus âgé qui a proposé cette solution. Al-Muhim. Et là, ils ont dit, donc, le premier homme qui va arriver de ce chemin, hein, c'est lui qui va juger. Et là, le prophète, il est arrivé. Et ils ont dit, Atakum al-Amin. Et là, ils ont dit, est venu à vous, al-Amin, le loyal. Donc, regardez, subhanallah, ici, une chose qui est intéressante, comment il respectait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il le respectait, comment ils avaient de l'estime pour lui. Mais le jour où il est venu, le jour où il est venu, en leur disant de ne plus adorer leurs idoles et de n'adorer que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il est passé de la personne la plus honnête, la plus véridique, par, yani, hein, soi-disant, un fou, un sorcier, un menteur. Voilà, ya Rabbillah. Regardez comment les cœurs des gens changent. Plutôt ne changent pas. Hein? Et comment l'estime de quelqu'un peut se transformer en haine lorsque cela ne va pas dans le sens de leur passion. Donc là, ils lui ont dit, donc, voilà, on diverge et tout. Il faut que tu juges entre nous. Et donc, il a pris la pierre, il l'a mis sur un vêtement et il a appelé chaque tribu. Et là, ils ont, chaque tribu a pris un côté de l'habit et ils l'ont transporté jusqu'à l'angle de la Kaaba. Et c'est le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallama, qui a posé la pierre noire. Alhamdulillah. Naam. Fanaktafi bihada inshallah ta'ala. العلم عند الله بارك الله فيكم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين